15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission Santé et Bien-être, une émission que nous avons baptisée Sans Rendez-vous parce que chez nous, pas besoin de réserver une place, la porte est ouverte, vous venez quand vous voulez. Tous les jours, nous répondons à vos interrogations. Idées reçues, petits bobos, grands dossiers, questions sexo, Sans Rendez-vous, l'émission dans laquelle vous allez tout comprendre et surtout où nous allons parler de tous les sujets sans tabou, c'est sur Europe 1. Il est à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, je vous présente, vous êtes médecin généraliste et ici, du lundi au vendredi, c'est de la santé des auditeurs d'Europe 1 dont vous allez, dont nous allons prendre soin. Au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à notre cerveau, avec un grand spécialiste de cet organe, le docteur Albert Moukébert. Il est docteur en neurosciences et psychologue et il vient de sortir un livre dans lequel il nous explique comment cet organe qui dirige tout dans notre organisme peut parfois s'amuser à nous jouer des tours grâce à ses astuces. Nous verrons comment faire de notre cerveau notre meilleur allié. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler des cups vaginales, qu'on appelle aussi des coupes menstruelles. De plus en plus de femmes les utilisent à la place des protections intimes. Il nous dira si ces dispositifs sont vraiment sûrs. Ensuite, dans notre chronique Les bobos du quotidien, on parle de ce qui n'est pas vraiment un bobo, mais un très beau geste par contre, vital pour certains malades, le don de moelle osseuse. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question de sexualité et de regrets. Mais tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et donc tout de suite, on écoute la première question, c'est celle de Thomas, 52 ans. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. Je vous appelle car j'ai une question à propos de ma maman qui a actuellement 78 ans. Elle n'a pas envie de partir en maison de retraite, donc elle est dans sa maison, elle vit seule. Et j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose, par exemple qu'elle tombe. Est-ce que vous auriez quelques conseils pratiques pour aménager l'intérieur, s'il vous plaît ? Merci beaucoup.
Ça, c'est une très bonne question. Effectivement, avec l'âge, il faut penser parfois à réaménager un peu l'intérieur d'une personne âgée. Car Jimmy, on est d'accord, le principal risque au domicile, finalement, c'est celui de la chute.
Exactement. Et qui dit chute, dit perte d'autonomie et puis parfois mortalité. Lorsqu'une personne âgée chute, elle peut se casser le col du fémur. Et je vous donne un chiffre très simple. Après une fracture du col du fémur, on aura une femme sur cinq qui décédera dans l'année et un homme sur trois qui décédera dans l'année de la fracture du col du fémur. Donc, autrement dit, prévenir ces chutes peut finalement les sauver et donc ça passe par un aménagement intérieur car bien souvent les appartements ne sont pas adaptés aux personnes âgées.
Alors on commence par quoi justement quand on veut réaménager l'intérieur de ses parents âgés par exemple, sans tout bouleverser chez eux non plus parce que ça peut un peu les gêner hein, tout.
Exactement, alors il y a des axes majeurs, toilettes et douches sont vraiment impératifs parce que le risque de chute est très important à ce moment-là. Pour les toilettes et la douche, évidemment qu'il faut avoir des barres de maintien latérales sur le mur pour qu'elles puissent s'accrocher parce qu'elles ont souvent plus de mal à se relever car elles ont moins de muscles.
Bien sûr.
Les toilettes, dans l'idéal, il faut un réhausseur. La douche, quand on peut, de plein pied. Mais il existe aussi des douches avec une petite porte dans laquelle on peut rentrer sans l'enjamber, avec un petit siège. Et donc tout ça, ça a évidemment un coût, mais ça leur permet de maintenir une qualité de vie, d'éviter des chutes et puis peut-être d'éviter la maison de retraite, ou en tout cas le plus tard possible.
Tout en restant effectivement donc chez eux le plus longtemps. Alors la douche, les toilettes, on a compris. Ensuite, on passe à quoi ? Est-ce qu'il y a d'autres dangers dans la maison comme ça ?
Alors il y a des trucs de base. Regardez ce qui se passe au sol. Moi, je fais beaucoup de visites à domicile et je suis effaré de trouver des tapis, des rallonges, des petits meubles de chevet. Tout ce qui peut finalement entraver le passage d'un point A ou un point B doit être dégagé. Le seul problème, c'est que les personnes âgées sont un peu opposantes.
Elles n'aiment pas qu'on bouleverse.
Exactement. Mais il le faut parce qu'elles vont buter dedans. Elles ne marchent pas très bien. On fait attention aussi aux chaussons qu'on ne laisse pas traîner n'importe où. Et puis, on essaie d'aménager quand il y a des escaliers. Alors, il faut essayer de les éviter, mais d'avoir une bonne main courante, d'avoir un seuil de porte ou un seuil de marche très visible. Bref. Il faut vraiment le faire et donc il ne faut pas hésiter à s'équiper.
Merci beaucoup Jimmy. Alors on va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois c'est Angèle, 26 ans. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. Je dois passer une hystérosalpingographie et on m'a dit que ça faisait mal. Je voulais savoir si c'était vrai et si vous pouviez me rassurer. Merci beaucoup.
Alors déjà il faut arriver à le prononcer, le nom de cet examen. Donc l'hystérosalpingographie.
Pas mal.
On l'appelle aussi, je crois, l'hystérographie. En fait, Jimmy, c'est un examen qu'on demande souvent aux femmes qui ont des soucis de fertilité, en fait.
Exactement, c'est dans le cadre de bilan d'infertilité, où c'est un examen radiologique pour voir comment globalement sont les trompes de l'utérus et l'utérus.
D'accord. Et ça se passe comment, cet examen ?
Alors, globalement, la femme, on fait ça en première partie de cycle. juste après les règles et avant l'ovulation, parce que c'est le moment où l'endomètre est le plus fin.
D'accord.
La femme est en position gynécologique, le gynécologue insère un spéculum, puis une espèce de sonde dans le col de l'utérus, mmh. à travers duquel il injecte un produit de contraste. On a un examen radiologique qui permet de suivre ce produit.
En même temps,
et
voilà.
Donc en même temps, on se rend compte comment se diffuse le produit dans la cavité.
Si ça
et
coule
on décèle,
bien, c'est que c'est
exactement.
Pas bouché. Ouais.
Et si ça coule pas, on voit où se trouve l'obstacle et peut-être mmh. quelque chose qui peut être entraver la fertilité d'une mmh. femme.
Alors est-ce que c'est douloureux? Parce que c'est quand même la question que se posent ces femmes qui doivent passer cet examen.
Alors on va pas se mentir, c'est pas ouais. une partie de plaisir. En plus, le col de l'utérus, lorsqu'on rentre, la sonde est très innervée. Mmh. Et donc ça peut être responsable de malaise, de douleur. Et puis ça dépend aussi de la pratique du gynécologue et puis aussi des obstacles possibles. Si vous avez une endométriose un peu sévère et que à peine la sonde passe, vous avez des douleurs, ça peut être un peu compliqué, mais malgré tout, quand on doit faire ce bilan, mmh. bah, on n'a pas trop le choix.
Bon, un examen un peu douloureux, mais souvent nécessaire lors d'un bilan de fertilité. Merci Jimmy. Alors si vous aussi, comme Angèle qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas, nous y répondrons au plus vite. Europe 1. Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler de la sécurité des cups vaginales, ces coupes que de plus en plus de femmes utilisent lors de leurs règles. Et puis, on accueillera aussi notre invité du jour, le docteur Albert Moukébert, spécialiste en neurosciences et psychologue. Avec lui, on va décortiquer notre cerveau et tenter de comprendre comment il peut parfois nous jouer des tours. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
De vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre nouvelle émission Santé et Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed, avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le docteur Albert Moukébert, spécialiste en neurosciences et psychologue avec qui on va parler de notre cerveau. C'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, vous avez décidé de nous parler des cups vaginales. Alors d'abord, c'est quoi ces cups? Ça veut dire coupe hein, en français.
Oui, rien à voir avec la coupe Davis, ouais, la coupe du monde. Parce que je vois bien certains hommes dire, mais oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un dispositif réservé aux femmes pour recueillir le sang au moment des règles qui pourraient remplacer donc un tampon ou une serviette hygiénique, tout simplement.
D'accord. Alors, est-ce que c'est fiable? Comment ça s'utilise? Là, c'est quoi les règles à respecter pour utiliser?
Alors,
ça
il y a eu une étude récente où des Britanniques et des Indiens ont suivi 3000 femmes qui ont utilisé ces cups en les interrogeant sur plusieurs points. Un, est-ce que c'est finalement confortable? Apparemment, oui. Bon. Ils ont été étonnés de se rendre compte qu'elles n'avaient pas d'irritation, pas d'inconfort et pas de problème après lors des rapports.
D'accord.
Deux, est-ce que c'était un moyen sûr et efficace lors des règles? Et bien apparemment aussi.
Qu'il n'y ait pas de ça fuite,
exactement,
ça,
de bon, fuite.
Ça marche bien.
Exactement, ça marche aussi bien. Et trois, est-ce que c'est dangereux? Et bien on s'est rendu compte que ça a le même risque, notamment de choc toxique, qu'un tampon vaginal classique. Donc finalement, c'est une alternative qui est plutôt très économique, parce qu'on en achète et puis on les garde très
plusieurs
longtemps.
Plusieurs années peut-être.
Et puis il
ouais.
y a un argument écologique, on va éviter d'utiliser
et
des
de
tampons,
jeter,
des centaines,
nature,
des milliers de tampons durant une vie. Donc ça peut être une vraie alternative et c'est en train de devenir à la mode.
Vous parliez du choc toxique, c'est quoi le choc toxique justement?
Alors le choc toxique, c'est cette infection bactérienne au staphylocoque qui se développe dans certaines situations, notamment au moment des règles des femmes, et qui garderait un tampon vaginal trop longtemps, empêchant la bactérie de s'éliminer, responsable d'une bactériémie et d'un choc septique. Et des femmes sont décédées de cette infection. Donc c'est quelque chose qui est très grave.
C'est rare, mais c'est grave.
C'est rare, c'est grave. Mais ce risque existe aussi avec ces cups et il est finalement identique. Donc c'est pas mieux, c'est pas pire, mais globalement, ça existe aussi.
D'accord, c'est sûr. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour tous ces conseils. Et tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. C'est Albert Moukébert. Il est docteur en neurosciences cognitives et psychologue clinicien.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour Albert Moukébert.
Bonjour.
Alors, vous venez de publier un livre, son titre c'est « Votre cerveau vous joue des tours » chez Alary Éditions, dans lequel vous nous parlez de notre cerveau, notre organe le plus complexe finalement. Enfin ça c'est ce qu'on pense, hein, parce que vous nous expliquez en fait dans votre livre que notre cerveau en fait il ne marche pas si bien que ça, que c'est un organe qui bug tout le temps en fait.
En fait c'est un organe très très complexe, c'est juste que la tâche qu'il doit gérer est très 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 difficile. Et donc moi je pense qu'il marche très bien, mais des fois quand ça bug, ça a un prix qui peut être assez élevé. Mais pour moi c'est assez fascinant qu'on soit tellement nombreux et que relativement ça marche, on est des millions dans une ville.
Donc tous des cerveaux.
Et ça va.
Ça va. Alors justement on est d'accord, là aujourd'hui dans cette émission et dans votre livre, vous ne parlez pas de personnes qui ont des vraies maladies neurologiques non. du type Alzheimer, on parle de monsieur et madame tout le monde, sans pathologie particulière. Et donc ce cerveau là, à nous tous qui n'avons pas de pathologie particulière, bah, il se trompe tout le temps, c'est ça?
En fait il essaye de faire de son mieux, c'est-à-dire on a tendance à croire, parce qu'on a longtemps séparé le corps de l'esprit, que l'esprit a une sorte de puissance illimitée. Mais en fait, on travaille avec des ressources attentionnelles et des ressources perceptives très, très, très limitées. Et donc, c'est normal, quelque part, qu'on se trompe. Mais vu que notre cerveau est tellement fascinant et complexe, il nous le cache. Et donc, on se trompe et on ne se souvient pas. On n'y fait pas attention.
D'accord, Jimmy.
Vous dites que le cerveau, finalement, c'est comme un ordinateur, mais plutôt très approximatif, alors que nous, on a l'impression que le cerveau, c'est quelque chose de hyper performant, quelque chose d'extraordinaire, mais pas tant que ça.
En fait, tout à fait. L'analogie cerveau-ordinateur est mauvaise justement pour ce point. Parce qu'un ordi, souvent, c'est des calculs précis, alors que notre cerveau fonctionne par approximation pour des raisons pratiques. C'est si à chaque fois que je veux tenir un verre dans ma main ou je veux faire un pas, il faut que mon cerveau calcule la force exacte, l'angle d'approche, la pression atmosphérique et tous ces calculs, ça nous prendrait une heure pour juste faire un pas ou bouger un petit geste. Donc notre cerveau va petit à petit améliorer ses modèles par approximation et devenir assez bon. Par exemple, si vous avez des enfants, vous pouvez voir ces modèles approximatifs s'améliorer. Quand un enfant commence à manger, au début, il ne vise pas sa bouche. Il met la cuillère un peu partout.
Ça,
et
c'est
petit
le cerveau
à petit,
déjà qui déraille un peu, qui n'est pas
qui apprend,
tout à fait...
Qui est encore en train de se calibrer, entre guillemets, qui apprend. Et à l'âge adulte, on arrive à viser notre bouche à peu près bien. Des fois, si on a un peu trop bu,
on rate,
mais on fonctionne beaucoup plus par approximation que de manière précise et exacte. Et ça vaut pour nos mouvements, pour notre corps, mais surtout, ça vaut aussi pour nos pensées et nos opinions. On a tendance à croire que nos opinions sont hyper pertinentes, qu'on a tout compris, alors que très très souvent, on se persuade de tout ça.
Alors vous expliquez aussi dans votre livre que notre cerveau finalement, bien souvent, il nous raconte des histoires. Ça veut dire quoi ça?
Littéralement ça, parce que ça nous raconte des histoires. C'est des recherches des années 60 et 70 d'un chercheur qui s'appelle Michael Gazzaniga qui a découvert quelque part ces capacités du cerveau qu'on appelle la confabulation. Et là aussi, ça peut nous paraître très bizarre, mais on le fait tous. On voit quelqu'un, je sais pas, je vois les collègues partir à déjeuner et ils me le proposent pas, et automatiquement je commence à me dire ah ils m'aiment pas,
ils me détestent.
Ouais. Tout ça, c'est une histoire qu'on est en train de raconter. Eux, ils ont rien dit. Peut-être qu'ils ont juste pas penser à moi, ou ils sont pressés, ou ils ont un déjeuner de travail. Il y a des millions d'hypothèses. Mais moi, parce que j'ai accès à mes intentions, je vais me raconter une histoire qui est pertinente pour moi-même. Et on voit ça aussi avec les patients Alzheimer, par exemple, qui ont besoin de confabuler pour ne pas prendre conscience qu'ils sont malades.
Donc on vient d'apprendre que notre cerveau confabule, c'est ça ? C'est le terme ?
C'est le terme pour les personnes qui ont des pathologies neurologiques, et pour nous autres, ils nous racontent des histoires.
Très bien. Merci beaucoup. On n'en a pas terminé avec vous, Albert Moukébert. Dans un instant, on va continuer à décrypter le fonctionnement parfois approximatif de notre cerveau. Vous restez avec nous.
Merci.
Dans un instant, on va parler des autres tours que peut nous jouer notre cerveau. Que se passe-t-il dans cet organe quand nous sommes persuadés, par exemple, d'avoir raison, alors qu'on a tort, hein. C'est pas juste de la mauvaise foi. Vous allez voir. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre nouvelle émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Vous êtes tous les bienvenus. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, Albert Moukébert. Il est docteur en neurosciences et psychologue. Avec vous aujourd'hui, on parle de cerveau, et donc la mémoire, c'est une des fonctions majeures de notre cerveau quand même. Mais vous nous expliquez dans votre bouquin qu'en fait, on ne peut pas tellement s'y fier, que notre cerveau, il réécrit en permanence nos souvenirs. En gros, on ne se rappelle pas et puis il brode, quoi, c'est ça ?
C'est exactement ça. On a tendance à croire que notre mémoire fonctionne un peu comme un appareil photo, une caméra, mais en fait, pas du tout. Et il y a une façon très simple de prendre conscience de ça. Si par exemple les auditeurs, ou si quelqu'un a pris les transports en commun, ou bien sa voiture ou un avion, si vous fermez les yeux, vous imaginez votre trajet dans la rame de métro, il y a des gens dans cette rame, elle n'est pas vide. Ils sont habillés, ils ne sont pas à poil, ils ont des visages. Tout ça, vous êtes en train de les inventer, parce que quand vous étiez dans le métro, vous étiez en train de regarder votre téléphone ou quelque chose. Vous n'étiez pas en train de faire attention à qui porte quoi.
Lui, il porte un t-shirt rouge.
Exactement.
Non, ça,
on ne fait pas ça. Mais pour la cohérence de mon souvenir, je sais que la rame était pleine. Et donc mon cerveau va remplir ça
et
de manière générique.
Il va les habiller
avec ce que je crois être les habits du 18 septembre à Paris, dans le métro.
Donc cette mémoire, il faut quand même l'utiliser avec prudence, finalement. C'est ça, votre conseil?
Tout à fait. Et ça, ça a même causé des problèmes dans les systèmes judiciaires, par exemple, quand on envoyait quelqu'un en prison à partir d'un témoin oculaire unique. Et c'est les travaux d'une chercheuse qui s'appelle Elisabeth Loftus, qui est peut-être la plus grande chercheuse sur la mémoire. Et grâce à elle, il y a eu des lois qui ont été changées pour ne plus accepter ça. Il y a même un projet qui s'appelle le Innocence Project, qui allait réétudier tous les dossiers de justice de personnes qui ont été incarcérées suite à un témoignage oculaire unique. Et leur taux de fausse incarcération était de 74%.
Ah ouais, c'est énorme.
Donc c'est quand même... Parce que si je suis en train de me faire agresser, je ne suis pas en train de penser à quoi il ressemble.
Oui,
j'essaye de m'enfuir.
Mais oui, bien sûr.
Et donc, quand on me fait le line-up aux États-Unis, on monte les différents suspects comme on voit dans les films, et on me dit c'est qui ? Si le vrai suspect n'est pas dedans, une personne va choisir la personne la plus probable. Mmh. Et ce qui est important à savoir, c'est que tout le monde, tous les acteurs un peu dans cette scène sont de bonne foi. C'est pas que la victime est en train de mentir ou elle a besoin de trouver quelqu'un. C'est pas un besoin. Elle est vraiment persuadée et tout le monde est de bonne foi. Donc, c'est très difficile de discerner les souvenirs authentiques. Mais aussi, on voit ça dans les couples. Quand il y a des disputes, par exemple, chaque personne personne se rappelle ce qui s'est passé différemment.
Ah oui, ça, c'est clair. Donc, on n'a pas la même version. Et ça encore, ça montre que notre mémoire, elle est...
Si notre mémoire est objective, il n'y a aucune raison qu'on se souvienne chacun des choses différemment.
Et donc, on a une très mauvaise mémoire, en fait, même quand on n'a pas de maladie particulière.
Oui, on a une mémoire, je ne sais pas si elle est mauvaise. Là aussi, on fait du mieux qu'on peut. Et c'est déjà pas mal. On se souvient de plein de trucs, d'adresses, de numéros de téléphone. C'est déjà pas mal. Mais effectivement, on brode autour de certains types de nos mémoires pour donner un sens aussi, quelque part, à notre vie, une cohérence, etc.
Jimmy ?
Et vous dites du coup que le cerveau bug, donc c'est un organe imparfait, et que parfois... on est persuadé d'avoir raison alors qu'on a tort. Finalement, c'est pas fait exprès.
Non, c'est un peu le drame quand on parle par exemple de fake news ou de tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et on pense que les gens le font de mauvaise foi. Mais par exemple, les fake news, peut-être que des fois, l'initiation peut être de ce qu'on appelle des acteurs mal intentionnés, mais le partage des fake news, en grande partie, est fait par des personnes comme vous et moi, qui sont complètement de bonne foi, qui voient un article, qui collent un peu avec ceux qui croient déjà, ou bien ils ont la flemme un peu de vérifier. Il y a deux hypothèses compétitives, mais qui ne sont pas contradictoires sur pourquoi on fait ça. Soit on est attaché à notre opinion et donc on se convainc de ce qu'on croit déjà, soit on n'a pas vraiment un enjeu. Ça peut être, je sais pas, un sujet l'ail pour guérir le sida. On va partager ça sans vérifier, en se disant ça peut peut-être aider quelqu'un. Donc on est de bonne foi. Il y a même des sites qui leur business model, c'est un peu des fake news liées à la santé. Parce que ça rapporte aussi beaucoup d'argent, beaucoup de clics. C'est-à-dire, il y a les fake news, par exemple, pour des raisons politiques.
Et notre cerveau, il aime ça, les fake news, finalement. Enfin,
notre cerveau, il aime tout. Il est pas très... il aime tout ce qui est lié ou bien soit au danger. Donc souvent, les fake news liées à la santé, ça va nous protéger, etc., pour des raisons évolutionnistes, ce qui est nouveau. Et ce qui s'aligne avec mes croyances. Donc je pense que le politicien X n'est pas bon. Et puis, il y a un article qui dit X attrapé pour corruption. Tous les voyants s'allument, je vais devoir partager, c'est inacceptable, quelle honte, etc.
Dans votre livre, vous parlez aussi du stress. Hein. Vous dites que c'est le meilleur ennemi de notre cerveau, c'est-à-dire... parce que, pourquoi vous dites d'ailleurs le meilleur ennemi ?
Parce que pendant longtemps, c'était notre meilleur allié. Et c'est pas de sa faute, c'est un peu nous. On parle du stress comme une personne, mais c'est drôle. C'est que pendant très très longtemps, le stress avait pour fonction d'être une réaction de notre corps face à un danger physique. Donc par exemple des prédateurs, etc. Et
donc,
pendant cette période-là,
qui nous court derrière,
exactement,
et
j'ai besoin d'être stressé. Sinon, si je suis pas stressé, je vois un prédateur, je me dis salut,
manger,
ça va, il me bouffe, il va pas me dire ouais, qu'est-ce que tu veux voir. Et du coup, pendant longtemps, le stress a été très utile. C'est pour ça quand on est stressé, on n'arrive pas à dormir parce que notre cerveau est en une sorte d'état d'alerte, d'observer s'il y a un prédateur qui va m'attaquer. C'est juste qu'aujourd'hui, dans le monde, si on descend maintenant dans la rue, on demande aux gens qu'est-ce qui vous stresse, très peu vont nous dire des lions et des guépards.
Ouais,
c'est souvent
ça, c'est rare,
la charge de travail, mon patron, les réunions, et tout ça, notre réaction à ce danger est encore ancrée dans le corps, donc la boule au ventre, la mâchoire, etc. C'est plus très adapté. Donc ce qui était un outil qui nous a permis de survivre pendant 200-300 000 ans était notre meilleur allié, et maintenant c'est un peu un ennemi qui cause les burn-out, etc. C'est ce qu'on voit.
Alors justement, on va en parler des burn-out dans un instant. Albert Bouquebert, hein, vous restez avec nous, on va continuer à parler de notre cerveau, on n'en a pas terminé.
Europe 1.
Alors dans un instant, on va voir par exemple comment mettre notre cerveau au repos, justement, puisqu'on le stresse trop, il faut qu'il se repose et pas qu'en vacances. Et puis on va parler aussi de ce cerveau qui nous donne l'illusion d'avoir des connaissances. Il est sympa, hein, grâce à lui, on se croit plus malin, j'ai l'impression qu'on l'est. Et puis on vous donnera aussi quelques conseils pour déjouer les pièges qu'il nous tend parfois. On va vous aider à battre votre propre ordinateur central. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité Albert Bouquebert. Il est docteur en neurosciences et psychologue. Alors il y a quelques minutes, vous nous disiez que le stress finalement, ça peut faire du mal à notre cerveau et que justement ce cerveau, il faut le mettre au repos de temps en temps. Alors enfin pas de temps en temps justement parce que dans votre livre, vous dites qu'il ne faut pas attendre les vacances. C'est tous les jours qu'il faut se donner des plages comme ça où on ne fait rien. C'est quoi ? Comment on met son cerveau au repos ?
Ben en fait, si on revient à la définition du stress qui est une réaction physiologique face à un danger physique, on est très très bien construit pour des réactions de stress intense mais de courte durée. Imaginez que je vous mets dans une pièce, il y a tout le temps un lion qui vous rôde autour pendant des semaines et des semaines et des semaines et des semaines et des semaines. C'est pas très agréable et c'est assez drainant comme fonctionnement. Et c'est comme ça qu'on est en train un peu de traiter notre cerveau, c'est-à-dire on travaille pendant 9, 10, 11 mois de l'année et après on se dit pendant 2 semaines je vais me reposer. Et c'est pas une fonction très, très utile, c'est comme genre ne pas manger, manger une fois 40 kilos et puis ne pas manger ou dormir 40 heures et puis ne pas dormir. C'est pas très utile comme fonctionnement. L'idéal serait de trouver des moments de récupération quotidien. Et comment ? Bah, c'est différent pour tout le monde. Il y a des personnes qui font du sport et que ça aide. Il y a des personnes qui aiment
Jimmy,
lire.
C'est pas ça, de sport, voilà, on s'en fout.
Netflix, les jeux vidéo, la sieste, ne rien faire.
Mais ne rien faire, flemme, on ne fait jamais rien, on pense toujours à quelque chose.
On peut, c'est vrai que notre cerveau est tout le temps en activité, mais il y a une différence entre penser à quelque chose et porter son attention sur ses pensées, et penser à quelque chose et ne pas penser du tout. Je reprends l'exemple du métro, les personnes qui sont dans le métro qui ont un peu le regard vide, ou vous êtes dans la salle d'attente chez votre docteur, votre cerveau est en train de fonctionner, mais si je vous interpelle et je vous dis à quoi tu pensais, vous ne savez pas. Parce que et c'est ça un peu ne rien faire, c'est-à-dire ne pas interagir, ne pas vraiment interagir avec nos pensées. Mais là aussi, l'important, c'est juste que ce ne soit pas des choses de pression. C'est-à-dire, si je vais rentrer et me dire, pour déconnecter, je ne vais rien faire, et je m'assois, et je me fous la pression un peu.
À ruminer,
à me dire, il ne faut pas que je fasse quelque chose. Ah non, tu as pensé, mais non,
ça,
non,
c'est
arrête.
Ça, ce n'est pas du repos.
Ça, ce n'est pas du repos. Ou si je dois aller au sport et je suis crevé, je me dis, non, mais il faut que je fasse mon sport. Ce n'est pas du repos. Il faut qu'il n'y ait pas une dimension de pression. Et encore une fois, ce n'est pas l'activité
d'injection,
qui compte, c'est plus. C'est plus l'attitude qu'on a vis-à-vis de cette activité. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise manière de se reposer. Il y a plus une attitude qu'on a vis-à-vis de ces activités.
Jimmy ?
Et vous dites dans votre livre aussi que le cerveau est doué pour nous donner l'illusion d'avoir des connaissances.
Oui.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Ben en fait, quand on commence à apprendre de nouvelles informations, souvent on n'a pas encore assez d'expertise pour pouvoir évaluer l'étendue de nos connaissances. Et on a tendance à surestimer combien on comprend quelque chose. Il y a plein d'études qui ont été faites, par exemple, sur des trucs très banals. La fermeture éclair. De demander aux gens, est-ce que vous savez comment fonctionne une fermeture éclair ? Et tout le monde dit, bah oui,
idée.
Bien sûr. Bah, les gens savaient d'habitude, ils disent oui.
Il faut la remonter, mais je ne sais pas exactement le mécanisme.
On a tendance à surestimer ça. Ou bien, par exemple, sur les vélos. On a demandé à des gens, est-ce que vous pensez que vous savez dessiner un vélo avec une chaîne et des pédales ? J'invite les gens à essayer. Ils vont remarquer que c'est un peu plus compliqué que ce qu'on croit, où mettre le siège. Et on appelle ça l'illusion de profondeur explicative.
Vrai, j'essaye de faire un vélo, mais je ne sais pas le faire, effectivement. On dirait une voiture, en fait.
Et donc, effectivement, on a une tendance à surestimer l'étendue de nos connaissances, surtout pour des connaissances auxquelles on est exposé brièvement. Et ça, c'est quelque chose qui devient de plus en plus problématique dans le monde moderne, parce qu'avec les réseaux sociaux et tout ça, on est exposé à plein de trucs. On descend dans la rue et on demande aux personnes leur avis sur des sujets aussi variés que l'écologie, les OGM, les vaccins, la situation en Iran, la situation au Venezuela, Bitcoin, la blockchain. Tout le monde a des opinions. Et ils viennent d'où ?
En fait, ils ont une connaissance particulière. Mais notre cerveau nous fait croire qu'on sait.
On a une sorte d'illusion, on appelle ça l'illusion de la connaissance. On surestime nos connaissances. Et paradoxalement, les personnes qui s'y connaissent sont meilleurs juges de l'étendue de leurs connaissances. Donc, eux, ils doutent. Et on se retrouve avec cette situation paradoxale où ceux qui ne savent pas sont sûrs d'eux. Et ceux qui savent doutent. Mais c'est pas très,
c'est
très
embêtant, effectivement.
C'est un peu embêtant.
C'est clair. Alors pourquoi notre cerveau, je parlais des fake news tout à l'heure, pourquoi il les aime, enfin il les aime tant, je sais pas s'il les aime les fake news, mais comment on peut faire pour dire à notre cerveau de faire attention à ces fake news ? Qu'est-ce que vous nous conseillez au quotidien ?
Alors il y a une certaine appétence pour certaines formes de news, qu'elles soient vraies ou fausses, notre cerveau ne sait pas. Mais souvent, effectivement, les news qui sont soit liées à des sujets qui me touchent. Donc, par exemple, quand il y a eu le drame de Notre-Dame,
ça
nous touche. Des sujets qui sont liés, comme je disais, à des choses de danger. Donc, on va nous envahir, ou bien on va tous mourir, ou bien on nous empoisonne, etc. Et donc, les fake news sont créées, sont architecturées de manière à utiliser ces leviers contre nous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des news réelles qui utilisent ça aussi. Mais souvent, dans les fake news, c'est souvent deux grandes familles, soit liées à la politique, pour des raisons de manipulation d'opinion, etc., soit liées à la santé, pour des raisons financières.
Jimmy ?
Vous dites qu'on a le droit de temps en temps d'être déprimé, que ça aille moins bien.
Ouais.
Mais jusqu'où on a le droit de se laisser aller ? Quand est-ce qu'il faut vraiment consulter ? Parce que tout le monde se dit déprimé maintenant. Mais je le vois aussi en consultation, des gens qui disent « je suis déprimé, docteur, je suis déprimé ». Mais où se trouve la limite entre la déprime normale et celle qui serait pathologique ?
Alors la première chose, c'est que je dis souvent qu'on a le droit parce qu'on est un peu aussi dans une sorte d'ère où il y a une sorte de dictature du bonheur. On n'a pas le droit d'aller mal, et ça devient un peu absurde, ça a une fonction d'aller mal. Mais effectivement, ça ne veut pas dire qu'il faut normaliser aller mal. La dépression, en tout cas dans les critères diagnostiques classiques, c'est 2 semaines consécutives où on broie du noir, on a une hypersomnie ou une hyposomnie, donc on dort trop, on ne dort pas assez, l'appétit qui est coupé, etc.
Et là, il se passe quelque chose dans le cerveau d'ailleurs, quand on a ce genre de maladie. Le cerveau, il est en burn-out en quelque sorte, il disjoncte.
Ça dépend. Le burn-out, c'est vraiment quelque chose de très particulier, souvent après une période de stress très longue, et après on est alité. On n'est plus vraiment fonctionnel. La dépression, situation, on peut quand même aller au boulot, on peut aller voir les potes, on peut aller au cinéma, mais on a une sorte de prépondérance des émotions négatives et surtout aussi une incapacité à ressentir des émotions positives. Et dans ce cas-là, effectivement, il faudrait consulter. Mais en général, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me consulter et des fois, je leur dis que c'est normal. Des personnes qui viennent me voir parce qu'elles sont déprimées, parce qu'elles ont perdu un être cher depuis moins de 3-4 semaines, ça s'appelle un deuil. Mmh. Et des personnes qui travaillent du matin au soir et qui me disent « Ouais, mais je mange bien, je fais mon yoga, je fais mon sport et je vais mal », c'est normal d'aller mal. On n'a pas des capacités illimitées. Mmh. Et il faut sortir un peu de cette dictature du bien-être permanent où on s'attend que si on fait A, B, C, D, bah, la machine va marcher tout le temps de manière optimale. Et si elle ne marche pas de manière optimale, c'est que j'ai un problème. Bah, non, c'est normal. Moi, il y a des jours, je me réveille, je n'ai pas envie de me lever du lit. Si c'est un jour, ce n'est pas grave. Effectivement, si c'est tous les jours pendant une semaine, 10 jours,
là, ça devient consulter. Un peu... Ouais. Dans votre livre, vous parlez aussi des nudges. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça. Nudge, voilà. Ouais, je parle très bien anglais, vous l'avez remarqué. Et de leur action sur notre cerveau. Alors, c'est quoi ces nudges, du coup?
Alors, les nudges, ça vient de l'anglais. Et c'est un peu
c'est pour ça que c'est pas
coup
pour
de
moi.
Pouce. En gros, c'est des manipulations de l'environnement pour essayer de changer le comportement des gens de manière, les gens qui ont créé ça disent, bienveillante. L'exemple du nudge le plus drôle et peut-être le plus connu, c'est à l'aéroport d'Amsterdam, à Schiphol. Les hommes faisaient un peu pipi partout dans les urinoirs. Et donc, des personnes ont collé des autocollants de mouche au milieu de l'urinoir. Et juste coller un autocollant de mouche, tous les hommes voulaient viser la mouche avec leur pipi. Du coup, les toilettes étaient 70% plus propres.
Après, on vous suggère la bonne réponse, entre guillemets, c'est un peu ça. Ouais. On vous souffle à l'oreille ce que vous devez penser, quoi, c'est ça?
On souffle à l'oreille, en tout cas, ou ce qu'on doit penser, mais surtout souvent, c'est au niveau des actions. Et ça a aussi des applications dans les politiques publiques. Par exemple, il y a une ville en Espagne qui a mis des poubelles avec écrit dessus qui est le meilleur joueur de foot au monde. D'un côté, il y avait Messi, de l'autre côté, il y avait Ronaldo, et les gens devaient voter avec leur mégot de clope. Du coup, ça incite les gens à plus jeter leur mégot de clope. Et après, c'est une expérience.
Pour encourager à des comportements un peu plus civiques.
Exactement.
Aussi, c'est ça.
Il y a des personnes qui allaient ramasser les mégots par terre pour pas que leur joueur préféré ne perde. Donc, ça peut avoir des fonctions très vertueuses.
Donc, notre cerveau, il s'attache bien à ces nudges, mais pas longtemps. Quoi, c'est
oui,
ça
le problème des nudges, c'est que certains nudges ont ce qu'on appelle des phénomènes d'extinction, ils disparaissent. Et en face des nudges, il y a ce qu'on appelle les sludges. C'est les personnes qui utilisent ces leviers à notre rencontre, comme par exemple les applications qui scrollent de façon infinie. Instagram, Facebook, si vous scrollez, ça ne se termine jamais. Et du coup, votre attention est tout le temps captée et vous avez moins de chances de sortir de l'application. Donc il y a les deux. Ou bien le précochage sur Internet, qui est maintenant illégal suite à une loi européenne et française.
Vous nous avez expliqué dans l'émission comment mettre notre cerveau au repos, mais moi je me demande comment vous, grand spécialiste du cerveau, vous mettez votre cerveau au repos, parce que vous l'étudiez tout le temps, vous en parlez du cerveau, vous le connaissez bien. Je crois que vous jouez aux jeux vidéo et même à Mario Kart. C'est pas très reposant les jeux vidéo.
En ce moment, je joue à Mario Maker 2, pour ceux qui s'intéressent. Si vous faites des niveaux, vous pouvez me les envoyer, je suis preneur. Oui, je joue aux jeux vidéo, je suis un grand spécialiste de la flemme. Ça aide beaucoup, je fais pas mal de micro-siestes, je peux dormir 4 minutes, 6 minutes, 7 minutes.
Ah oui.
Et des fois j'arrive pas à me reposer, hein. C'est pas parce que je suis spécialiste du cerveau que je réussis, des fois c'est dur, des fois la vie n'est pas facile, des fois il y a beaucoup de travail, des fois il y a des coups durs, et c'est important de décomplexer un peu le fait de pas réussir. Je suis assez flemmard, mais il y a des jours où, comme tout le monde, il faut payer les factures, il faut aller au boulot, il faut se réveiller tôt, il faut prendre un train, et on va mal.
Alors pour terminer, je mentionne quand même un cycle de conférences auquel vous participez au MK2 Bibliothèque François Mitterrand qui s'intitule « Votre cerveau vous joue des tours ». La prochaine conférence est ce dimanche à 11h pour ceux que ça intéresse et le thème c'est « La science dit-elle la vérité ». Merci beaucoup Albert Mouquet-Vert d'être venu sur notre plateau. Grâce à vous, on en sait plus sur le fonctionnement de cet organe. Je rappelle que le titre de votre livre c'est « Votre cerveau vous joue des tours » chez Alary Édition. Merci encore.
Merci. Europe 1.
Dans un instant, notre chronique « Les bobos du quotidien ». Et cette semaine, on s'est intéressé à ce qui n'est pas vraiment un bobo, mais un très beau geste par contre vital pour certains malades, le don de moelle osseuse. On vous dira tout, à tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence les bobos du quotidien. Et cette semaine, on parle du don de moelle osseuse. Et justement, Benjamin Lévesque a été vous donner la parole. Qu'est-ce que vous savez finalement sur ce geste de générosité qui peut sauver des vies? On écoute son micro-trottoir.
J'imagine une opération délicate où on prend un risque pour sauver quelqu'un.
Je crois que c'est une très grosse opération, oui.
Prélèvement de la moelle épinière, mais je sais pas comment que ça se passe, mais je crois que c'est très douloureux. Ouais.
Les grosses aiguilles qu'on doit qu'on doit planter.
Première vue, moi je le ferai pas. Je n'aime pas tout ce qui touche aux hôpitaux, donc à moins d'être forcé.
Oui, je pense qu'on en manque.
C'est pour des gens qui ont des maladies peut-être génétiques.
Pour guérir une maladie des os, enfin des personnes qui ont peut-être des faiblesses au niveau du squelette ou de la composition osseuse, et peut-être qu'un don de moelle osseuse peut éviter une certaine paralysie.
Il faut que ce soit compatible génétiquement, donc il faut que ce soit ou un proche ou quelqu'un qui ait une compatibilité génétique.
J'avais un ami d'ailleurs qui est décédé il y a peu de temps et qui avait besoin de don de moelle osseuse, et clairement je me suis dit, allez, fais-le après tout.
Je ne sais pas si tout le monde peut le faire. Je pense qu'il y a une limite d'âge quand même.
Alors, le don de moelle osseuse, c'est vrai que c'est un don qui est assez mal connu, hein, en tout cas pas autant que le don de sang, hein, et pour lequel il y a beaucoup d'idées reçues qui circulent. On en a entendu pas mal dans le micro-trottoir et on va donc essayer de les démolir. D'abord, Jimmy, le don de moelle osseuse, c'est pas du tout un prélèvement qui est fait, comme on l'a entendu dans le micro-trottoir, dans la colonne vertébrale, dans les os. Hein, c'est
non,
pas ça.
Là, il parle de la moelle épinière, celle du dos et du cerveau. Là, la moelle osseuse, ça se trouve au niveau des os longs et ça contient les cellules souches hématopoétiques. C'est les cellules, en gros, qui peuvent donner des globules rouges pour transporter l'oxygène, les globules blancs pour lutter contre les infections, les plaquettes pour éviter le saignement et tout le système immunitaire. Et donc ça n'a rien à voir avec la colonne vertébrale,
avec le dos,
et donc aucun risque d'être paralysé.
Oui, j'en crois ça souvent, mais non, effectivement. C'est d'ailleurs, justement, c'est quand même une ponction dans un os, vous allez le dire, mais pas le dos. Mais aujourd'hui, il y a un moyen pour aller récupérer cette moelle osseuse, qui n'est pas d'ailleurs dans l'os. Hein. On peut le faire de deux façons, je crois.
Exactement, soit la ponction classique dans l'os, donc un os long, pas dans le dos,
dans le bassin,
c'est souvent le bassin, rarement dans le sternum, donc l'os au milieu, mais c'est plutôt le bassin. Et puis il y a une autre technique qu'on appelle par aphérèse. C'est une prise de sang globalement. Pendant quelques jours avant la prise de sang, on essaie de stimuler un petit peu les cellules pour qu'elles puissent, avec des injections en sous-cutané, donc ça fait pas mal, pour que ces cellules qui sont normalement dans les os longs passent dans la circulation sanguine pour qu'on puisse les récupérer lors d'une prise de sang. Et ça, globalement, c'est 75% des dons. Et donc, avec ces prélèvements indolores, la seule chose, c'est que c'est long, ça dure 4 heures.
C'est une longue prise de sang.
Et on peut sauver des vies parce qu'il y a de vrais impacts et un vrai enjeu de santé avec ce don de moelle.
Et justement, ce don de moelle, on a entendu là aussi dans le micro-trottoir, certains disaient c'est pour soigner des maladies des os. Non, ça c'est pour qui en fait, ces dons de moelle osseuse ?
C'est évidemment pour ceux qui ont des maladies graves et parfois rares du sang. Lorsqu'on a certaines leucémies, certaines formes d'anémie ou de maladies héréditaires graves, la thalassémie, la drépanocytose, des maladies qui nécessitent souvent des transfusions, eh ben on peut les guérir avec ce don de moelle. Donc réellement, on peut encore une fois sauver des vies.
Alors, c'est pas donc prélevé dans la colonne vertébrale, donc on n'a pas de risque de paralysie, ça on a compris. Et est-ce que du coup, on peut tous donner ?
Alors non, tout le monde ne peut pas donner, il y a certains critères. Il faut avoir au minimum 18 ans et au maximum 51 ans pour être inscrit. Mais si on est inscrit, on peut donner jusqu'à 60 ans. Évidemment, il faut être en bonne santé, il faut accepter de le faire. Et puis, il y a aussi un examen clinique et une prise de sang qu'on fait quelques semaines avant le don possible.
D'accord. Et il y a vraiment des contre-indications absolues, oui ?
Alors, il ne faut pas avoir de problème cardiaque, pas de problème d'hypertension artérielle, pas d'affection respiratoire, pas de problème du système nerveux, pas de cancer, évidemment des maladies plutôt graves. La seule chose, c'est qu'on peut avoir été transfusé et donner sa moelle. Souvent, on pense que c'est incompatible.
Ouais.
Et donc, il y a bien sûr d'autres contre-indications. On ne va pas toutes les faire, mais globalement, vous aurez un examen médical
De toute façon.
Juste avant, qui permettra de dire si oui ou non, vous pouvez donner.
Merci beaucoup, Jimmy, pour tous ces conseils. Et pour ceux qui voudraient s'inscrire pour être un jour peut-être donneur de moelle osseuse, c'est simple. Vous pouvez vous préinscrire sur le site dondemoelleosseuse.fr. Il y a un petit formulaire à remplir et on vous contactera donc, pour le rendez-vous médical et la petite prise de sang. Voilà, vous savez tout.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo de l'émission. Aujourd'hui avec notre sexologue Catherine Blanc, on va parler de sexualité et de regrets. Restez sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, comme tous les jours, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour à tous les deux.
Alors aujourd'hui, on parle de sexualité et de regrets. Avec cette question que nous a envoyée Sylvie, 38 ans, je vous la lis. Ma première fois s'est faite dans l'urgence. Il me fallait débarrasser de ce pucelage encombrant, me libérer. Qu'importait la personne et la situation. Aujourd'hui, je regrette mon attitude et le profit que ce premier garçon a fait de moi. Comment réparer cette blessure que je garde en moi et qui aliène ma sexualité? Alors Catherine, apparemment, Sylvie, elle fait partie de ces femmes qui ruminent encore pas mal d'années après cette première fois gâchée, bâclée peut-être. C'est fréquent ça chez les femmes, ou les hommes d'ailleurs, hein, qui regrettent cette première fois, le fait de ne pas s'en remettre comme ça?
Bah, c'est souvent quand notre sexualité patauge que tout d'un coup on veut regarder, on veut trouver une origine et du coup on regarde le passé. Une première fois est une première fois avec ses choses formidables ou moins formidables. Ce qui était formidable, c'était pour elle d'arriver à se lancer, d'oser se lancer. Ce qui est dommage en effet, c'est de se danser la tête la première sans trop savoir ce qu'elle fait, ni avec qui, pourquoi, etc. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est quand même elle qui est à l'origine de ça. Personne n'y a contraint. Donc c'est simplement au contraire apprendre de cette situation pour se dire que je mérite de faire des choix qui me représentent, dans lesquels je me reconnais.
Mais là, dit quand même que ça aliène sa sexualité, ça va très loin, hein. C'est fou quand même, pourquoi elle emploie ce mot-là? Ça veut dire que ça l'a quand même presque traumatisée, on dirait.
Moi, je crois qu'en fait, elle écrit sans doute depuis le début une histoire où la sexualité ne peut pas être expression de plaisir. C'est-à-dire, je ne fais pas l'amour parce que j'ai envie de faire l'amour, mais parce qu'il faut que je me débarrasse d'un truc honteux que serait le pucelage. Je le fais avec n'importe qui, parce que comme le truc est pas terrible, je le donne à n'importe qui. Quand une autre le fera de façon très romanesque, donner sa fleur à qui est à la hauteur. Bon, je crois que ça parle plus d'elle que ça ne parle de ce garçon qui n'a certainement pas fait le profit de quoi que ce soit.
Jimmy,
est-ce que ce serait plus un truc de femme sans être macho? Parce que finalement, je pense que ça arrivait à des hommes. Un dépucelage rapide, pas terrible, à la va-vite, mais qui pour autant ne sont pas forcément traumatisés. Ils disent, bon bah, maintenant c'est fait, on passe à autre chose.
La prochaine sera meilleure.
La prochaine sera meilleure.
Oui, parce que les femmes sont tentées par cette histoire qu'elles ont un hymen et qu'elles vont perdre leur hymen, comme si c'était quelque chose qu'elles allaient donner
sacré
à quelqu'un et qui est sacré. Alors que les hommes n'ont pas cette idée. Les hommes ont simplement passé de l'incompétence à la compétence. Donc il faut avoir été déniaisé pour être en capacité de faire quelque chose.
Mettre
donc ils n'y mettent pas le même affect pour des histoires historiques.
On sacralise trop les femmes en fait cette histoire-là, non? Peut-être dans la majorité des cas.
On l'a sacralisée pour elles. Et donc du coup, elles sacralisent ce moment comme s'il fallait le faire avec quelqu'un qui est à la hauteur, quelqu'un qui les respecte, quelqu'un qui les aime.
C'est mieux quand ça se passe comme ça quand même, on est d'accord?
Oui, bien sûr. Mais on peut aussi se dire qu'on raconte sa propre histoire et qu'on se respecte et qu'on le fait avec quelqu'un parce que l'on se respecte et non pas parce que l'autre nous respecte.
Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui, comme Sylvie, s'en remettent pas donc de cette première fois qui a été gâchée, bâclée, et chez qui ça reste gravé et donc il faut réparer quelque chose?
Oui, mais elles ne s'en remettent pas parce que c'est encore une fois pas la première fois, c'est l'idée de la sexualité. C'est déjà en amont de cette première expérience. C'est l'idée qu'elle n'est pas en capacité d'en faire quelque chose d'intéressant pour elle. Et du coup, la première fois en est la démonstration et toutes les fois qui suivent aussi.
Jimmy ?
Et comment est-ce qu'elle peut faire du coup pour essayer de réparer cette première fois qui semble encore l'invalider dans sa vie quotidienne ? Est-ce que quand on tombe de vélo, on dit qu'il faut vite remonter en selle ? Est-ce que pour elle, ce serait un peu la même chose ou absolument pas?
Alors, je pense que dans son cas, ce n'est pas vite remonter en selle, puisque je crois que c'est justement ce qu'elle a fait au départ. Mais c'est s'interroger sur la valeur qu'elle pourrait se donner. Est-ce qu'elle est méritante? Est-ce qu'elle a de la valeur? Est-ce que sa féminité est quelque chose de respectable pour elle? Et du coup, d'aller vers quelqu'un qui représente ce qu'elle peut se promettre de judicieux pour elle. Et du coup, écrire une histoire qui est suffisamment jolie pour qu'elle laisse derrière elle ce qui ne l'était moins, ce qui n'était pas abouti, ce qui était simplement le fait d'une jeune fille. Beaucoup de jeunes filles, par exemple, vont le faire quand elles sont en vacances à l'étranger, comme s'il fallait laisser loin derrière soi, avec n'importe qui, qu'on ne reverra surtout pas, personne ne le saura, ni à l'école, ni dans la classe, ni dans son village ou sa ville, ou dans son environnement. Et puis, alors elles le font comme ça, puis après elles partent en pleurant parce qu'elles ont laissé le bel amoureux sur une plage à l'autre bout du monde.
Donc finalement, encore des regrets. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils et donc à demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, notre grand dossier du jour s'intéressera à nos rêves. Et surtout, vous verrez aux moyens d'en prendre en partie le contrôle, à devenir acteur éclairé de nos rêves grâce à la méditation notamment. Vous allez voir, ce sera passionnant.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.